entre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la critique de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des droits de l'enfant. C'est l'occasion depuis 1989 de se rendre compte de nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. En RDC, les efforts sont consentis par le gouvernement et ses partenaires pour améliorer les conditions de l'enfant congolais, notamment l'adoption depuis 2011 de la loi portant protection de l'enfant. Quel regard portez-vous sur ces efforts et que proposez-vous pour les consolider? 081-890-7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission réalisée par Julie César. Paul Bayanyama assure la mise en onde et Pierrot et la Meiji vous la présente sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-7315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Le monde a commémoré la convention relative aux droits de l'homme depuis le 20 novembre 1989, une convention adoptée par les Nations Unies. Cela nous permet de faire le point sur l'évolution de la situation des droits de l'enfant ici en RDC, l'adoption de la loi portant protection de l'enfant depuis 2011. Plusieurs organisations militent pour l'amélioration de la situation des enfants. Quel regard vous portez sur leur lutte, leurs efforts? Et qu'est-ce qui doit aussi être fait pour consolider les acquis? 081-890-7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous avons associé à cet échange M. Joseph Godet à KMB. Vous êtes avec nous dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez la Lisadel et vous êtes également secrétaire, je crois bien, adjoint au conseil permanent de l'enfance, c'est ça?
Exactement.
Et nous faisons le point sur l'évolution des efforts qui sont fournis pour la protection de l'enfant en marge, bien sûr, de la célébration de cette convention. Est-ce que les piliers, les quatre piliers de cette convention qui sont la non-discrimination des enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant, la survie et le développement de l'enfant, l'opinion de l'enfant qui doit être prise en compte. Quand vous regardez ces quatre piliers et vous qui êtes sur terrain, pensez-vous que beaucoup de forces sont fournies à RDC pour intégrer ces piliers dans la situation de l'enfant congolais?
Sur le plan juridique, il y a eu des efforts qui sont fournis quand même. Il y a eu des efforts qui sont fournis par les autorités pour que tout cela soit observé, parce qu'il y a des lois qui existent. Mais il y a un réel problème de la mise en application de toutes ces lois. Donc l'effort doit être fourni par le pouvoir public, donc la volonté politique qui est en termes de mise en place des textes légaux qui protègent toutes ces personnes et qui envisagent l'intégration dans nos habitudes, dans nos coutumes, les quatre piliers. Mais malheureusement, le problème se pose en termes d'application.
Et quand vous dites que le problème se pose en termes d'application, tout à l'heure vous avez évoqué la volonté politique. Alors, le problème se pose parce qu'il y a cette volonté qui n'est pas assez soutenue, ou bien il y a un déficit de sensibilisation des différents acteurs qui doivent entrer en ligne de compte de l'application de ces textes.
Le problème, c'est que il y a une insuffisance. Quand je dis volonté politique, c'est-à-dire que l'autorité politique a pris des mesures. Mais ces mesures doivent être suivies de mesures d'encadrement. Le mesure d'encadrement pour la Lisadel, c'est la mise à la disposition de ceux qui doivent mettre en œuvre toutes ces dispositions, les moyens nécessaires pour le faire. Malheureusement, nous constatons tout simplement que l'État ne disponibilise pas le moyen nécessaire pour que cela soit mis en œuvre.
Mmh. Et il y a eu la loi, nous l'avons dit tout à l'heure, en 2011, mais on a vu aussi l'installation progressive à travers le pays des tribunaux pour enfants. Est-ce que vous qui faites le monitoring, est-ce que ces tribunaux ont assez contribué à la situation de droit de l'enfant aujourd'hui?
Je crois que les tribunaux, je porte un jugement assez correct, direct. Pour la Litadelle, nous pensions que ces tribunaux devraient être installés pendant les premières années dans toute la République.
Mm-hmm.
Parce que les coûts de ces tribunaux n'est pas cher. Nous avons même évalué les coûts pour mettre en place dans toutes les provinces les tribunaux. Ça ne coûte pas tellement. Mais nous avons constaté tout simplement que l'État a déclaré qu'il faut mettre en place des tribunaux. Il a mis le mécanisme pour le mettre en place.
Mm-hmm.
Mais malheureusement, dans tout ça, ce sont les juges recrutés qui doivent se débrouiller pour trouver les locaux où habiter les tribunaux pour enfants. Donc on n'a pas attaché beaucoup d'importance, même pas de l'importance à ces tribunaux.
Mm-hmm.
Parce que l'État n'a pas disponibilisé de moyens. Il laisse la charge de la mise en œuvre de ces tribunaux aux institutions internationales, comme l'UNICEF. Ce n'est pas son travail,
mm-hmm.
c'est le travail de l'État. Donc l'État devrait construire les tribunaux pour enfants et y affecter les juges, et si le partenaire pouvait intervenir, c'est en termes de fonctionnement, donner quelque chose pour
mettre un appui.
Oui.
Alors, mais pour, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit aborder quand on parle des droits de l'enfant, c'est beaucoup de choses à la fois.
Oui.
Mais si nous restons dans ces quatre sortes que j'ai évoquées tout à l'heure, la non-discrimination des enfants, cela veut dire que les enfants doivent bénéficier de mêmes avantages, quel que soit le rang social, quel que soit la religion. Si nous partons d'abord de cette premier point, la non-discrimination des enfants. Et si nous pouvons faire le point sur terrain et revenir à ce que vous faites, je reviens à vous parce qu'on sait que vous avez cet œil national, vous avez au moins le monitoring et cette facilité de savoir ce qui se passe. Parlons d'abord de la non-discrimination. Et cela aussi est inclus, bien sûr, dans la loi. Alors, aujourd'hui, au niveau du pouvoir public, même des partenaires, quels sont les efforts qui ont été fournis?
Par rapport à la non-discrimination, je disais que les textes les disent, mais la mise en œuvre pose des problèmes. L'État congolais prévoit dans la disposition, dans la loi, que l'enseignement doit être gratuit obligatoire.
Mm-hmm.
Et tous les enfants devaient aller à l'école sans discrimination.
Mm-hmm.
Et mais malheureusement, l'État n'a pas mis de moyens pour permettre à ce que cette disposition soit mise en œuvre.
Mm-hmm.
Donc, il déclare une chose, mais il ne prévoit pas le mécanisme pour la réalisation. Donc, c'est ça le grand problème, c'est que la discrimination continue. Tant qu'il y a déjà 7 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, il y a ceux qui vont à l'école. Donc, ceux qui vont à l'école ne peuvent pas se mettre sur le même pied d'égalité et ceux qui ne vont pas à l'école.
Mm-hmm.
Donc, la majorité d'enfants sont privés de ces droits d'égalité, de chance. Donc, c'est ça qui pose le problème.
Et d'ailleurs, quand vous avez évoqué l'école tout à l'heure, je vois dans le socle qui parle de l'intérêt supérieur, il y a eu un débat tout à l'heure, on dit aujourd'hui les écoles renvoient les enfants qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas payé, parce que les parents sont en retard de paiement, et on renvoie ces enfants. Est-ce que dans ce genre de décision, l'intérêt de l'enfant est au centre? C'est la région aussi, il y a tous les autres débats autour de l'enfant. Est-ce qu'on pense vraiment à l'intérêt de l'enfant ou bien juste on fait les débats parce que les gens ont besoin de parler de l'enfant mais qui malheureusement l'ont oublié parce qu'on le met à la porte et parce qu'il n'a pas payé?
Celui qui donne le front de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est l'autorité publique. L'autorité publique qui donne le moyen aux écoles pour que tous les enfants soient traités de manière égalitaire.
Mm-hmm.
L'État ne prévoit pas de moyens pour cette école.
Mm-hmm.
Et en même temps, s'il ne prévoit pas de moyens, il est en train de dire aux écoles de demander l'argent aux parents qui n'ont pas de moyens pour pouvoir envoyer les enfants à l'école. Et cet argent, l'État aussi a sa part dans la part de ceux qui donnent les parents. Donc, ça veut dire que les parents sont exploités. L'autorité publique qui est censée pouvoir mettre de moyens à la disposition des écoles pour permettre à tous les enfants d'accéder au droit à l'éducation.
Mm-hmm.
L'autorité ne le fait pas. Par contre, il fixe le prix que les parents doivent payer pour que les enfants aillent à l'école. Ça permet que beaucoup d'enfants n'y accèdent pas. Mais dans ceux qui accèdent, il y a l'argent que les parents doivent payer, que les enfants doivent payer
pour bénéficier de la formation. Et en même temps, l'État a sa part dedans. Il y a un pourcentage qui remonte jusqu'au niveau national, dans l'argent qui est dans les parents. Donc c'est là, c'est ça le grand problème que nous avons, c'est le défi à relever.
Et là, avec le problème de la survie, le développement de l'enfant, on se pose, parce qu'on voit des enfants qui, pour vivre, sont obligés d'aller travailler aujourd'hui. On a plusieurs fois évoqué la situation des enfants qui travaillent dans les mines, mais est-ce que de ce côté-là, les choses ont évolué par rapport à la lutte contre le travail des enfants aujourd'hui dans notre pays?
Le travail de l'enfant est interdit par la loi. Ce qui a évolué, c'est que les parents, la plupart des gens ont pris conscience qu'il ne faut pas engager les enfants. Donc, au moins, c'est une évolution. Il ne faut pas engager les enfants. Et ceux qui engagent les enfants ont des problèmes avec la police. Mais sur le plan formel, il n'y a rien qui est pris comme, comme entreprise au niveau des institutions publiques pour que cela s'arrête. Mais néanmoins, la conscience, avec la sensibilisation, les gens eux-mêmes ont pris conscience qu'il ne faut pas engager les enfants parce qu'ils risquent d'avoir des problèmes avec l'État. Mmh. Mais néanmoins, les enfants, pour la survie, ils font des petits travaux pour la survie. Et ces enfants, au lieu d'être à l'école, pour être formés, se développer, devenir des hommes, parce que le développement des enfants, c'est au niveau de l'école et au niveau de ce qu'ils doivent consommer pour pouvoir devenir, se développer physiquement et intellectuellement. Mais sur le plan intellectuel, cet enfant ne se développe pas. Sur le plan physique, sur le plan matériel, il n'a pas de moyens pour la survie. Alors il est obligé de faire des petits travaux pour survivre. Mais cela, c'est pour combien de temps? Pour combien de temps pour cet enfant? Et quel est son avenir? Tout ça, ce sont des problèmes.
Nous avons des auditeurs qui sont en ligne. Zachary est à Karanga, au Kassai Occidental, et Lagilo à Kalemi, au Katanga, et Samuel ici à Kinshasa. Avant d'écouter les auditeurs, mais il y a aussi ce problème de l'opinion de l'enfant qui doit être considéré. Est-ce que cela est ancré dans nos habitudes, même au sein de la famille aujourd'hui, même au niveau des politiques qui sont élaborées pour les enfants? Est-ce que les enfants sont consultés aujourd'hui pour qu'ils émettent leur opinion sur ce qui les concerne?
Je crois qu'il y a un effort qui est fourni par les organisations. Les temps principes pour la mise en application de cette opinion de l'enfant, il devait en principe arriver à organiser les enfants en termes de comités, pour les comités des enfants, où les enfants doivent s'épanouir, où ils doivent trouver, où ils ont les mots à dire. Si nous disons que l'opinion de l'enfant doit être prise en compte, c'est-à-dire qu'au niveau des institutions publiques, ils doivent tenir compte de l'opinion de l'enfant. Oui. Aujourd'hui, il y a le code de la famille en discussion au Parlement. Mm-hmm. Et ce code, en principe, pour toutes les dispositions qui concernent l'enfant, le président du Parlement, du Sénat, devrait, en principe, écouter l'opinion des enfants, parce que ça les engage pour l'avenir. Mm-hmm. Donc, l'opinion des enfants qui sont organisés. Mm-hmm. Il y a des enfants qui sont les amis du comité des enfants, il y a des comités, il y a les enfants qui sont organisés
dans le Parlement,
les enfants reporters. Tous ces enfants devaient apporter leur opinion, devait être prise en compte par le Parlement. Donc, c'est là aussi que nous devons parler de la prise en compte de l'opinion des enfants. C'est d'abord au niveau institutionnel, au niveau des institutions. On ne veut pas décider de l'enfant, de ce qui doit devenir demain, sans savoir aussi qu'est-ce que l'enfant aussi pense. Les gens, les grandes personnes considèrent qu'il n'y a que eux qui ont raison. Mais si vous parlez avec les enfants, vous allez vous rendre compte que nous, les grandes personnes, nous sommes en retard.
La Guillaume, on vous accorde la parole, Zachary et Samuel. Je rappelle encore que nous faisons le point sur l'évolution des efforts fournis dans l'amélioration de la situation de l'enfant en RDC en marge de la célébration de la journée relative à la convention de l'enfant. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Zachary, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, nous faisons le point. Est-ce qu'il y a des efforts aujourd'hui visibles à Kananga, là où vous êtes, des efforts qui sont fournis pour arriver quand même à améliorer la situation de l'enfant?
Bon, généralement, je ne saurais ni affirmer la situation. Sinon, mon intervention, c'est en rapport avec les constats faits. Les constats ici sur la ville de Kananga, enfants de la ville. Ces enfants généralement ont des parents, mais suite aux conditions qui sont posées aux parents par certaines confessions religieuses, d'une manière, enfants sorciers, vos enfants sont sorciers, voilà la raison pour laquelle vous n'accédez pas au bonheur, dit cela. Personnellement, j'ai eu à faire un tour à travers la province, j'étais à Tamako, à Chikapa, à Kamonia, j'ai vu qu'il y a même des enfants qui se débrouillent à la place de leurs parents. Alors j'avais un rapport avec ces constats, deux questions à poser. Est-ce que les droits de l'enfant peuvent compromettre les devoirs de cet enfant en regard avec ses parents? Parce que à travers un documentaire de Pichi Banda, qui est en train de comparer les conditions de l'enfant africain et l'enfant européen. Donc chez les enfants européens, quand ils partent à l'école, on leur remet même des codes, les codes, les droits des enfants. Donc les droits de l'enfant. Même quand le parent bat l'enfant à la maison, l'enfant peut appeler même la police pour dire « Mes parents m'ont battu, vous pouvez venir pour arrêter les parents. » C'est bien. Mais est-ce que ces droits-là ont des répercussions sur les devoirs qu'a l'enfant envers ses parents? Alors la deuxième question, c'est en rapport avec les enfants en âge scolaire qui travaillent pour nourrir leurs parents. Est-ce que l'État congolais prévoit quelque chose par rapport à cela? Voilà mes deux questions et je vous remercie.
Merci beaucoup, Zachary. Vous dites que la problématique des enfants dissociés, les enfants qui sont abandonnés par les parents pour cause des religions. Mais la question, c'est celle de savoir, l'enfant a des droits, mais quelle doit être la répercussion de ces droits sur les devoirs aussi des enfants vers ses parents, et les enfants en âge scolaire qui travaillent, qui aujourd'hui, on peut dire, assument ici la responsabilité au niveau de la maison pour nourrir. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que l'État prévoit? Notre invité pourra vous répondre d'un moment à l'autre. Le temps d'écouter la Guilois, qui est à Kalemi, au Katanga. Bonjour, la Guilois.
Bonjour, monsieur Pierrot et la mairie, et bonjour aussi à monsieur José Gosé Kayembe qui est notre invité.
On vous écoute, la Guilois. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent aujourd'hui pour défendre les droits des enfants dans notre société, mais est-ce que dans l'Académie, y a-t-il assez d'efforts quand vous regardez aujourd'hui au niveau de la société, les gens qui militent assez pour que l'enfant congolais, l'enfant d'Académie retrouve quand même sa place et sa dignité?
Merci, monsieur Pierrot, pour le verbe. Je pense que je ne pourrais pas affirmer ni confirmer suite à cette question, du fait que je ne suis pas une bouche autorisée malgré ce dont je n'ai pas sur place. Je dois poser mon interrogation sur une petite analyse et je dois atterrir avec des questions que je dois poser à l'invité. Je pense que c'est une grande occasion pour nous, les peuples congolais, de pouvoir faire une petite analyse suite à cette célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. Je pense que cette journée, c'est connu de tous, qu'elle a été initiée par l'ONU, et à ce sujet, la RDC a voté une loi faisant la protection de l'enfant depuis 2011. Malheureusement, M. Pierrot, cette loi souffre d'application. De fait, la violation de cette loi est en train de connaître un boom dans la République démocratique du Congo, et même, surtout dans les provinces où on trouve des mines, et plus particulièrement le Katanga, où on avait constaté dans une carrière de mines qui était découverte ici, au nord du Katanga, dans le territoire de Nyungu. Conséquence de cette carrière qui a été découverte, l'abandon massif de certains enfants sur le banc de l'école, voire de certains territoires étaient touchés, ou les territoires voisins étaient touchés aussi par le mauvais vent. Alors, je dois aussi demander au gouvernement de la République de pouvoir protéger, lorsque nous voyons des enfants mineurs, des enfants qui sont à l'âge scolaire, qui sont dans les carrières minières, et au moins que dans ces carrés minés, il y a la police des mines. Est-ce que réellement c'est en train de mener son travail? Si nous voyons ces enfants où on trouve des polices mines, c'est que je veux dire, c'est l'État congolais qui est considéré en tant que le mandataire de ces enfants ou de cette violation. Et je pense que même la loi fondamentale de la République démocratique du Congo, c'est puis ici les articles 43 et 44 de la Constitution qui disent que nous devons protéger. Voilà qui parle de la situation scolaire. Mais nous voyons une discrimination totale de certains enfants qui sont jusque-là privés de l'école. Rien que les enfants de riches ont droit aussi
La Guilois, parce que vous avez aussi deux questions à poser, vous avez évoqué quelque chose d'important. Les enfants qui sont tentés par l'exploitation minière dans les Katanga, on voit aussi ça dans les Kassai orientales, Kassai occidentales, là où on exploite les diamants, l'or et ailleurs. On voit ces enfants abandonner l'école pour se ruer vers les carrés d'exploitation minière. Et là, la question, c'est celle de savoir le rôle de la police des mines, parce que cette police est permanente dans ses carrières, mais au niveau aussi des enfants en train de travailler. Ça, c'est une question, une préoccupation importante. Mais alors, vous avez deux questions que vous pouviez tout à l'heure poser à notre invité. Si vous pouvez y aller rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur notre standard. On vous écoute. Posez les deux questions à la Guilois.
Merci. Je pose la question à M. Joseph de Kayembe. Est-ce qu'il peut me donner les statistiques des enfants qui sont retrouvés dans les carrières minières? Et si, de 2013, vous n'êtes pas l'idée de me présenter les statistiques, comme il est aussi de l'Isabelle, les statistiques de tous les enfants qui sont dans les carrières minières de 2013. Et la dernière question, qui est la deuxième, est-ce que M. Godet, est-ce qu'il peut me dire quels sont ces efforts qu'il est censé avoir de mener ici dans les provinces où on trouve des mines? Voilà mes deux préoccupations.
Merci beaucoup, Laguiloire. Vous demandez s'il y a des chiffres par rapport aux enfants qui seraient dans les carrières d'exploitation minière en 2013, mais aussi les efforts de la Lisabel par rapport aux enfants qui se retrouvent dans les provinces où les mines sont exploitées. Merci beaucoup, Laguiloire. Samuel, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour.
Bonjour.
Et Samuel, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Parce qu'on a eu des petits soucis avec votre ligne. Vous avez suivi les deux premiers intervenants. Il y a celui qui est revenu sur ce problème des enfants en âge scolaire qui travaillent pour nourrir leur famille. Mais il y a ce problème des enfants qui travaillent dans les sites d'exploitation en minière. C'est important, c'est ce que disait tout à l'heure notre ami Laguiloire. Mais dans tout ça, il y a la responsabilité de l'État. Mais à Kinshasa, quelle est la particularité dans ces problèmes qui touchent les enfants aujourd'hui, Samuel? Là, on a des petits soucis des lignes avec vous, Samuel. Le temps de pouvoir écouter Hams qui nous appelle des Mbarara en Ouganda. Vous êtes avec nous, Hams, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et alors, qu'est-ce qui doit être fait pour arriver à consolider les efforts sur terrain et vraiment traduire en acte toute cette volonté exprimée dans les textes par rapport à la protection, au développement du droit de l'enfant dans notre pays, Hams?
Concernant mon point d'avis, moi, je me laisse le gouvernement congolais, tout en premier, pourquoi les enfants, par exemple, bien dans l'armée du soldat, moi, j'ai constaté qu'il n'y a pas la réintégration des enfants. Parce que les enfants sont réintégrés dans la société, il faudrait qu'il y ait un centre d'apprentissage. Que l'enfant puisse se rétablir dans la vie courante. Moi, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de centre d'encadrement des enfants soldats. D'autre part, les enfants qui sont de la rue, tel que a été le cas récemment à Kinshasa, et l'obstation commune. Les enfants qui sont réintégrés, les ressortissants de ces actes marchés, n'ont pas été encadrés du tout bien pour que leur vie soit vraiment rétablie dans la société normale. Parce qu'un enfant qui a été dans des stages, il y a des choses qu'on appelle la traumatisation. L'enfant est traumatisé. Il y a des stratégies et catégories qu'on puisse rétablir l'enfant. Une personne est traumatisée, cette déjeuner n'est pas fait devant la communauté, devant l'entourage. Alors,
oui, Hams, au-delà du fait que vous, la ligne pose des petits soucis entre Kinshasa et Mbarara en Ouganda, mais vous avez, vous, évoqué le problème de l'insuffisance des centres d'encadrement, que ce soit les enfants soldats, les enfants qui ont été associés aux groupes, aux forces et groupes armés, qui ont été récupérés, ne sont pas assez encadrés. Ils peuvent être tentés à réintégrer encore le groupe armé, que ce soit aussi au niveau de Kinshasa, les enfants appelés Kuluna. Vous dites qu'il n'y a pas assez des centres pour les encadrer. Quand il n'y a pas un bon encadrement, un système psychologique, l'enfant risque de pouvoir revenir à ce qu'il était en train de faire. Merci beaucoup, Hams Kaouni. Vous gardez la ligne, on va revenir à vous le temps que notre invité puisse réagir. Joseph Boudé Kayembe, vous avez suivi nos auditeurs. Il y a des questions qui vous ont été posées par rapport aux devoirs, aux droits de l'enfant et sur ses devoirs envers les parents, les travails des enfants en âge scolaire, la police des mines qui est là, mais plusieurs fois on parle des enfants qui travaillent dans les mines, y a-t-il des statistiques? Et vous, Lisabelle, quels sont les efforts que vous fournissez dans le région où on exploite les mines? Et Samuel pose le problème de l'insuffisance des centres d'encadrement. Voilà autant de préoccupations posées par nos auditeurs.
Merci beaucoup pour toutes ces questions. Ça prouve à suffisance que notre société est préoccupée par la problématique de la sécurisation des enfants.
Mm-hmm.
Avant de répondre à notre ami Zachary, je reviens à Kralimi. Notre ami parle de, il parle des statistiques, il parle de l'effort que l'État doit fournir par rapport aux enfants de la mine. Concernant le rôle de la protection des enfants dans les mines, il parle, il responsabilise plus la police des mines. D'abord, lui, en tant qu'organisation, qu'est-ce qu'il fait pour que cette police joue son rôle? Donc, la responsabilité de la communauté est déterminante. La communauté doit pouvoir s'impliquer dans la protection de l'enfant. L'enfant n'appartient pas seulement à l'État. L'enfant appartient à la communauté et aux parents.
Mm-hmm.
Donc, il faut que notre communauté comprenne que la protection de l'enfant, tout enfant appartient à la communauté. Lorsque l'enfant est en danger, la communauté doit s'impliquer pour sa protection. Dans la tradition, on sait que l'enfant de mon cousin, c'est mon enfant.
Mm-hmm.
L'enfant du village, c'est notre enfant. Donc, lorsque vous trouvez enfant dans une mauvaise posture, n'importe quel parent devrait l'interpeller.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde a abandonné l'enfant, y compris l'État. Donc, en fait, si nous voulons que les choses changent dans ce pays, il faut que la communauté comprenne la nécessité de s'impliquer dans la protection de l'enfant. C'est que s'il trouve l'enfant dans une mauvaise posture, soit il prend des comptes, il sensibilise la police pour que la police joue son rôle en tant que police de mine pour sécuriser les enfants, pour empêcher les enfants de ne pas travailler, pour interpeller les gens qui utilisent les enfants dans les mines. À cet effet, à ce moment-là, les enfants sont sécurisés. Mais alors, si nous mettons tout simplement à regarder la police, nous n'aurons pas joué notre rôle en tant que communauté.
Mm-hmm.
Et nous, notre rôle, c'est de voir sécuriser l'enfant en même temps, d'interpeller la police pour que la police joue son rôle. En ce qui concerne les statistiques, je vous dis qu'aucune organisation, d'abord au niveau de l'État, il n'y a pas une enquête qui a été menée à cet effet. Si on ne connaît pas le nombre de notre population, on ne connaît pas la population congolaise, alors quelle est cette organisation qui peut mener une enquête pour dire exactement le nombre d'enfants qui sont utilisés dans les mines? Ça n'existe pas. Et je reviens à notre ami Zachary. Lorsque Zachary parle du devoir de l'enfant, il parle du travail de l'enfant.
Mm-hmm.
Quant à ce qui concerne le devoir de l'enfant, il y a les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, c'est quoi? Les droits de l'enfant sont des besoins de l'enfant pour que l'enfant se développe.
Mm-hmm.
C'est ça les droits de l'enfant. L'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit manger, l'enfant doit être pris en charge sur le plan sécuritaire, l'enfant doit être amené à l'hôpital. Ce sont ça les droits, ce sont les besoins pour que cet enfant grandisse. Mais cet enfant, parce qu'il est pris en charge, il est protégé, il est scolarisé. Mais en retour, il doit être reconnaissant vis-à-vis des personnes qui lui rendent ses services.
Mm-hmm.
Il doit le respecter, il doit les obéir. Et c'est ça qu'on demande aux enfants. Donc c'est que l'enfant, quand il devient désobéissant, qui peut continuer à le prendre en charge. Donc en fait, ce qu'on demande à l'enfant, qui soit au niveau de l'école, c'est de pouvoir obéir, et de pouvoir respecter les personnes, les grandes personnes qui le prennent en charge. Donc ça, c'est le devoir de l'enfant. Mais nous, les grandes personnes, nous avons l'obligation, l'État a l'obligation de les scolariser, l'État a l'obligation de rendre l'enseignement accessible à l'enfant, là, l'État a l'obligation de rendre le système de santé accessible à l'enfant, et nous, les parents, nous avons l'obligation de prendre l'enfant et de l'amener à l'école.
Mm-hmm.
C'est ça l'obligation des parents. Nous avons l'obligation de donner le repas à l'enfant, parce que la loi dit que l'État doit aider les parents à pouvoir prendre en charge l'enfant.
Mm-hmm.
C'est qu'il doit le payer le parent, conséquemment, et il doit pouvoir, au cas où les parents sont en difficulté, l'État a l'obligation de les appuyer sur le plan social. Donc, c'est comme ça que la loi dit.
Mm-hmm.
Et en ce qui concerne le travail, c'est comme j'ai déjà répondu pour ce qui concerne le travail. Alors, je reviens à notre ami.
Samuel qui évoque l'insuffisance des centres d'encadrement, oui, et de soutien.
Exactement. Quand vous regardez bien, notre pays vit dans des contradictions terribles. La loi prévoit que lorsque l'enfant, par exemple, il est en conflit avec l'État, il est en conflit, cet enfant doit être détaché de sa famille, il doit être placé dans un centre de rééducation. Dans ce centre, ce n'est pas en prison, dans ce centre, l'enfant bénéficie de tous les privilèges, il les suit, mais seulement on le prive d'être en contact avec sa famille. Mais l'État ne s'est fait aucun souci de créer ce centre-là. Sans aujourd'hui, si l'enfant est en conflit avec la loi, et ce qui est aujourd'hui à Kinshasa par exemple, lorsque l'enfant viole notre enfant, ça pose des problèmes. L'État ne sait pas, le juge ne sait pas où placer l'enfant.
Et ailleurs, nombreux sont en prison, se retrouvent en prison.
Il n'y a pas de famille d'accueil pour accueillir cet enfant. Les familles exemplaires, ça n'existe pas, qui acceptent cet enfant. Parce que bon, la plupart des parents évitent un enfant qui est en conflit avec l'État. Il n'y a pas de structure d'encadrement pour ce genre d'enfant. Il n'y en a pas. Mais l'État ne fait pas un effort, soit pour appuyer les structures qui sont disposées à faire ce travail, soit créer des structures qui aient des structures, soit réhabiliter les structures qui existaient. Donc l'État ne fait pas un effort par rapport à ça. Et là, ça pose un problème réel. Mais néanmoins, pour ce qui est de ces enfants soldats, tout ça, il devait y avoir le centre de réinsertion ou d'autonomisation de tous ces jeunes gens, où ils doivent subir de la formation rapide et lui donner des kits de réinsertion pour qu'ils puissent être autonomes dans la vie. Et ce qui n'a pas été fait, c'est ce qui fait que la plupart d'entre eux sont devenus des criminels.
Voilà. 081-890-63-15, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée à l'enfant. Papy, vous êtes ici à Kinshasa, mais on a reçu aussi beaucoup de messages sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs que nous allons exploiter tout à l'heure.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Mangou Ngus Kambale de Boutembo dit ceci: protéger l'enfant, ce n'est pas seulement lui éviter des dangers extérieurs, c'est aussi le protéger de la violence intérieure, c'est-à-dire lui donner des limites. Or, il faut reconnaître que le développement de nos valeurs individualistes disqualifiant les concepts d'autorité et hiérarchie empêche de nombreux adultes de mettre l'enfant à sa place d'enfant, c'est-à-dire d'assumer un rôle véritablement éducatif. Le public et les professionnels non impliqués directement dans cette pratique ne voient pas toujours les conséquences de ces choix de notre société. Hans Roy, qui nous a appelé tout à l'heure de Mbarara en Ouganda, a pu évoquer la problématique des centres d'encadrement. Maître Christian Baya de Boman, oui, au droit de l'enfant, mais lorsque le gouvernement veut que l'enseignement primaire soit gratuit et fournit peu d'efforts pour améliorer les conditions des enseignants, en tant qu'enseignant, je vois un mal comment ces droits que nous désirons vont être bénéfiques pour les enfants. Innocent Armand Kondoli, la loi sur la protection de l'enfant existe bel et bien, mais c'est son application qui pose problème. Certes, des progrès ont été réalisés surtout par les ONG, mais pas au niveau de l'État. Ces types d'enfants abandonnés, la plupart d'enfants sont abandonnés à leur triste sort. Il y a Rolf Jonathan Mobayi, la loi est là, mais ce qui reste son application au niveau même des tribunaux pour enfants, car nous assistons ici à une exploitation économique notoire des enfants, l'accès difficile à l'éducation de certains enfants et un traitement inhumain de la part de certains parents. Les défenseurs des droits de l'enfant, les assistants sociaux, les ministères, les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle et apprendre aux enfants à dénoncer surtout les injustices dont ils sont victimes et punir les auteurs de ces actes. Au gouvernement de doubler les efforts pour une bonne application de toutes les lois protégeant l'enfant et chercher à mettre dans de bonnes conditions un enfant en conflit avec la loi et non les placer dans des maisons carcérales. Jacques Arakaï du Siro, lui, il remercie quand même les efforts qui ont été fournis jusqu'alors pour arriver quand même à faire quelque chose pour soutenir l'enfant. Samuel Tembo Moïndo de Kinshasa, les droits de l'enfant doivent être aussi visibles dans la famille, donc aux parents de prendre leurs responsabilités, surtout limiter les naissances pour éviter les pires. Papy, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, cher invité.
Monsieur Pirot, papy, vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce qui doit être fait pour consolider les efforts qui doivent être menés dans le cadre de la protection de l'enfant?
Ok, merci, monsieur Pirot. D'entrée des GF, il convient de signaler que la loi portant protection de l'enfant en vigueur chez nous
ne prévoit non seulement la protection de l'enfant, soit les droits de l'enfant, mais aussi les devoirs. Donc l'enfant a les droits, il a aussi les devoirs. Mmh. Étant donné que le sujet est relatif à la protection de l'enfant, je vais d'abord aborder la protection judiciaire de l'enfant.
Monsieur Pierrot, étant juriste de formation, avocat de Turquois, je suis tellement désolé de remarquer que la pratique est vraiment inférieure à la théorie. C'est-à-dire que la loi pour la protection de l'enfant ne correspond pas à la pratique, comme vient de le dire le maître de ce fait.
Mm-hmm.
Alors, si je peux vous lire une disposition de l'article, donc l'article 18, 48 de la loi qui interdit les fiançailles et les mariages d'enfants. Mais dans la pratique, nous voyons les enfants, surtout dans les milieux ruraux, sont donnés en mariage avant l'âge de 18 ans. Et c'est là, à l'issue même des autorités compétentes, soit à l'issue des autorités de la place.
Mm-hmm.
Nous sommes vraiment désolés par rapport à ça. Il y a encore l'article 69 de la loi qui dispose que les parents incapables d'assurer la survie de leur enfant bénéficient d'une assurance matérielle et financière de l'État. Mais je ne vois pas pourquoi mettre la charrue devant les bêtes. Parce qu'on aurait pu mettre toutes les dispositions en place, soit que les structures, les mécanismes et les structures d'accueil et d'hébergement des enfants avant d'adopter cette loi-ci. Pour moi, c'est une loi qui reste à moitié lettre morte parce que sa pratique est vraiment différente à la situation.
Mm-hmm.
Alors, par rapport aux suggestions, M. J.R., le placement d'enfants en prison a beaucoup de conséquences. D'ailleurs, les législations modernes envisagent déjà les mécanismes pour remplacer la peine de prison. Parce que la peine de prison, surtout avec l'administration pénitentiaire à travers le monde, a beaucoup de conséquences sur la vie des prisonniers. A fortiori, un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité.
Mm-hmm.
Donc la prison a beaucoup de conséquences néfastes. Il n'y a pas de sérénité des enquêtes, des audiences et dans la prise de décision. Donc la loi parle d'un délai bien précis pour prendre des décisions ou pour faire l'enquête en matière d'enfants.
Mm-hmm.
Mais nous voyons que la pratique nous désole, la pratique est inférieure à la vie.
Mm-hmm. Mais alors, papy, il y a une préoccupation. Vous avez évoqué tout à l'heure, papy. Oui, papy, vous avez souhaité qu'on puisse honorer d'abord dû créer les centres d'encadrement après adopter la loi et la promulguer. Mais il y a une autre préoccupation. Vous avez évoqué tout à l'heure le non-respect de l'âge légal pour le mariage en milieu rural. Mais c'est la grande difficulté, c'est ça. Déjà, ces filles qui sont en milieu rural ont des difficultés aujourd'hui à accéder à l'éducation à partir de 14, 15, 16 ans. Dès lors que cette fille ne va pas à l'école, il se pose un problème de comment elle doit être gérée, encadrée par les parents. Et la seule possibilité qui s'offre, n'est-ce pas, papy, c'est le mariage. Alors moi, je pense que les efforts doivent être fournis pour permettre à ces filles qui sont en milieu rural d'abord d'aller à l'école, parce que si elles vont à l'école jusqu'à 18 ans, ça sera difficile qu'on puisse évoquer le mariage, n'est-ce pas, papy?
Ça, c'est vrai. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Je sais que c'est une obligation constitutionnelle. Il y a une procédure de la Constitution qui prévoit la prise en charge de l'État, donc la gratuité de l'enseignement primaire. Mais nous sommes désolés de voir que cela n'est pas réellement mis en vigueur. Il y a encore, M. Pierrot, les réseaux sociaux. Donc, l'utilisation abusive des réseaux sociaux affecte gravement au moral des enfants. Il faut réglementer, il faut mettre des sérieux à l'utilisation des réseaux sociaux.
Voilà, merci beaucoup. Oui, allez-y rapidement, oui.
Vous savez que la musique est tentée de contribuer négativement à l'évolution morale et intellectuelle des enfants. Donc, nous voyons des danses obscènes, des insanités partout à travers les chaînes de télévision et les chaînes de radio.
Voilà, merci beaucoup, papy. Merci beaucoup, papy. Il y a beaucoup d'auditeurs sur notre standard. Et vous avez ajouté quelque chose d'important, l'encadrement des enfants par rapport à l'abus hein, de nouvelles technologies, si on peut dire ainsi, de l'information, de la communication, les réseaux sociaux, l'utilisation de Facebook aujourd'hui et des autres médias sociaux. Il y a le problème de la moralité, de la musique, avec les contenus, des émissions qui sont diffusées sur nos chaînes de télévision ici à Kinshasa et ailleurs. Tout cela doit être bien analysée pour permettre à ce que l'enfant grandisse d'une manière saine. Merci beaucoup. Nathanaël, vous êtes à Dungu, en province orientale. Bonjour.
Oui, Gilles, bonjour. C'est bien Nathanaël de Dungu, en province orientale.
Alors, vous avez suivi Papy qui a évoqué beaucoup de choses, l'utilisation aujourd'hui des médias sociaux, la télévision et ses contenus, le problème des mariages précoces, voilà autant de choses qui menacent l'intégrité de l'enfant. Alors, qu'est-ce qui doit être fait d'une manière plus efficace pour arriver vraiment à protéger cet enfant contre tous ces méfaits, Nathanaël?
D'une manière plus efficace, hier, je vous parle de ce que nous on fait ici à Dungu.
Mm-hmm.
Parce que moi-même, je suis chef de projet protection pour l'ONG AGDEC. Nous sommes en train de mettre en œuvre un projet sur la mise en œuvre de l'approche communauté protectrice dans la communauté, afin que la communauté elle-même soit responsable de la protection de l'enfant, bien sûr, appuyée par les autorités locales.
Mm-hmm.
Alors, le projet vise, à fin de compte, à mettre en place un système fonctionnel où il y a la coordination des acteurs de la protection de l'enfance, parmi lesquels on trouve même les leaders communautaires, les leaders religieux et les leaders coutumiers, les ONG locales. Nous devons parvenir à avoir dans la communauté des assistants sociaux formés et capables de donner des réponses à la problématique de la vulnérabilité des enfants affectés particulièrement dans la zone ici par les conflits armés. Et nous devons aussi avoir un système de référencement. Un système de référencement qui permet à ce que lorsque la communauté est en face des problèmes de vulnérabilité d'un enfant, des problèmes de protection d'un enfant, que la communauté sache où référer l'enfant afin que désormais ce ne soit pas l'affaire des ONG, surtout à ce contexte où les urgences sont en train de prendre effet dans la zone, les financements sont en train d'être sérieusement réduits. Voilà un plan qui a été mis en place afin que la résilience de la communauté, l'appropriation de la protection de l'enfant dans la communauté puisse être assurée dans un mécanisme où on a les bailleurs, les gouvernements et la communauté locale.
Mm-hmm.
Mais bien sûr, hier, nous sommes en train de mettre cette approche dans la communauté de Dungu avec beaucoup de défis en face de nous.
Merci beaucoup, Nathanaël, pour tous ces efforts que vous faites au niveau de l'ONG à Gérec. Et là, vous posant une question vraiment importante, c'est que vous dites il y a la réduction de l'intervention aujourd'hui des ONG internationales. Et cela appelle la communauté à pouvoir initier des mécanismes, mettre en place des mesures qui permettent à ce que la question de l'enfant, comme le disait notre invité au début de l'émission, soit une question communautaire, non seulement des ONG ou de l'État. Merci beaucoup. On revient à vous, Joseph Godet-Kaimbe, avant d'écouter Clovis et Olivier qui sont encore sur les antennes. Les amis sont revenus, par exemple, Papy qui a évoqué c'est ce problème de mariage précoce, on l'a dit, il y a mariage précoce, mais d'un côté, il y a l'absence de la scolarisation en milieu rural, ça pose problème. Mais il y a aussi l'environnement dans lequel l'enfant évolue aujourd'hui. On voit à Kinshasa les contenus des chaînes de télévision, l'accès aujourd'hui aux nouvelles technologies et tout cela. Il faut quand même qu'il y ait des mesures pour pouvoir protéger cet enfant qui a quand même l'accès à ces technologies pour garder sa moralité.
Merci beaucoup pour... Je remercie tous les intervenants, tous les auditeurs, mais je voudrais préciser que concernant le mariage précoce, le mariage précoce, il est interdit par la loi, et qu'il y a également le fiançailles, il est interdit par la loi. Et il appartient à ce moment-là aux parents d'en parler aux enfants, parce qu'on a l'impression que la plupart des parents ne veulent pas parler à leurs enfants du sexe. Or, c'est le sexe, c'est le fondamental qui détruit ou qui avance la société. Si beaucoup de sociétés, de familles sont détruites, c'est à cause du sexe. Donc il faut en parler aux enfants.
Mm-hmm.
Moi, je suis en tant que père, j'ai 9 enfants, je suis responsable. Mais mes enfants, je leur parle du sexe. Ça m'a permis d'avoir des enfants qui étaient nés d'humanité, sans avoir des garçons, sans savoir ce que c'est les filles. Ils ne savent pas. Ils sont en train d'université, ils sont en train vierges à l'université. C'est-à-dire que nos parents doivent être en mesure de pouvoir éduquer. L'État doit les aider. Donc même l'école où on envoie l'enfant, l'école aide les parents.
Donc il faut que les parents congolais soient en mesure de parler à leurs enfants de sexe. Le mariage précoce, c'est interdit. Il faut en parler aux enfants. Il faut en parler tant aux garçons qu'aux filles. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas seulement les filles qui sont concernées, même les garçons aussi. Il faut qu'au niveau de la société, qu'on en parle pour que cela termine. L'éducation de l'enfant, on ne lui parle pas quand il est grand. L'éducation, c'est lorsque l'enfant est encore petit. Quand vous êtes en Europe, à l'école maternelle, l'enfant de 2 ans, de 3 ans, on lui dit, la fille, que personne ne touche sur ton sexe, sauf ta mère. Sauf ta mère quand il veut te laver, si c'est une fille. Même le père n'a pas trop de toucher le sexe de ta fille. Et ça fait que les enfants développent une certaine prudence. Mm-hmm. Mais ici, on laisse les enfants, même les oncles viennent toucher l'enfant, et finalement, ce sont les mêmes oncles qui vont pouvoir violer l'enfant. Donc il faut qu'au niveau de famille, que les parents soient en mesure d'encadrer les pauvres enfants. D'abord, la plupart des parents congolais, ils vont à l'église pour apprendre quoi? Ils vont à l'église pour apprendre la morale chrétienne. Et cette morale chrétienne doit les conduire jusqu'à la maison, doit apprendre à leurs enfants qu'il faut fuir l'impudicité. Il faut éviter ceci, il faut éviter cela. Ça permet à l'enfant de grandir avec une morale nécessaire à son propre développement. Et cela ne se fait pas. Je crois que c'est une, quand je regarde bien, c'est la préoccupation de tout le monde. Mm-hmm. Même la mise en place de la communauté protectrice, c'est l'initiative de l'UNICEF. Je voudrais qu'au niveau de la base, qu'il y ait des communautés protectrices, que tout le monde s'implique dans la protection de l'enfant, mm-hmm. pour que, en fin de compte, que les problèmes de l'enfant ne soient pas une affaire des parents, mais soient une affaire de tout le monde, comme dans notre tradition. Je crois que ce n'est qu'à ce moment-là, quand il parle de référence contre référence. Exactement, c'est-à-dire qu'à l'occasion, lorsque il y a un cas qui surgit, ou bien un problème qui surgit à l'enfant, il y a possibilité de pouvoir l'orienter vers les institutions de prise en charge qui doivent l'aider à pouvoir trouver la solution. En fait, c'est ça.
Voilà, nous avons Clovis, Olivier et fils qui sont sur les antennes. Chacun une minute pour placer un mot par rapport à cet échange autour de droits de l'enfant. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Clovis, vous êtes à moitié du tout. En une minute, votre intervention, parce que là, on doit vraiment terminer cette émission, Clovis.
Merci bien, Pierrot, pour la parole m'accorder. Je vais juste poser la question à l'invité de la radio Capi, puisqu'il y a un prédécesseur qui a parlé de l'article 69 de la loi portant protection de l'enfant, qui a dit que les parents incapables de survenir à la survie de l'enfant, l'État doit intervenir sur le plan matériel et financier. Et quelque part là, on dit que avec un arrêté interministériel de ministre ayant contribution de l'enfant, de la famille aussi des affaires sociales, quelle contribution notre État a déjà fait aux parents incapables? Et je voudrais juste savoir, en face de moi, je vois des petits garçons qui partent à l'école, mais certains ont de petites bassines dans lesquelles il y a de mangue et aussi de fruits, il y a aussi des patates. Quel message on peut lancer à tous ces parents, à tous ces parents-là, voulais-je dire, qui ne veulent pas que les enfants puissent aussi être scolarisés, et certains enfants aussi sont là pour nourrir leurs familles.
Merci beaucoup, Clovis. Vous voulez savoir, quand on parle de la contribution de l'État pour soutenir les parents, ça veut dire quoi? Je veux dire donner de l'argent, l'inviter pour répondre. Mais là, vous revenez encore sur cette question des activités commerciales, les enfants qui sont envoyés vendre au marché parce que les familles sont dans les besoins. Merci beaucoup. On écoute rapidement Olivier. Vous êtes à Moubi, c'est à 30 km, je crois bien, de Walikale, au nord de vous. Olivier, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot et la Mégie, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Mmh. Je voulais juste apporter ma suggestion, dire que vraiment la protection de l'enfant c'est une affaire qui concerne tout le monde. Mais en grande partie de la responsabilité au niveau du gouvernement de notre pays. Je pense que le problème de la protection de l'enfant, dans un premier temps, engage le gouvernement parce que tous ces enfants qui sont non protégés, qui vont en dehors de la loi, simplement parce qu'ils ne sont pas scolarisés, ces enfants ne sont pas bien encadrés. Donc le gouvernement doit respecter ses responsabilités en faisant sa contribution pour la scolarisation des enfants. Je pense que quand le gouvernement honore sa responsabilité, chaque parent doit faire tous les moyens possibles pour accompagner son enfant à l'école. Mais aussi, il y a le cas des enfants non occupés par le gouvernement, surtout les milieux ruraux, où le parent lui-même doit payer pour son enfant. Imaginez-vous, le parent lui-même n'est pas engagé, il n'a pas d'emploi. Comment ce parent abandonné par le gouvernement pourra venir en aide de son enfant pour qu'il soit encadré? Alors après ça, comme l'enfant n'est pas encadré, le parent aussi n'est pas engagé quelque part, n'est pas employé par l'État, l'enfant sera aussi délaissé et vous trouverez beaucoup de cas d'anormal. Donc l'enfant peut être soit un enfant de la rue, l'enfant va travailler dans des carrières minières et tout ça revient
Alors on doit remonter au niveau de l'État, vous l'avez dit Olivier, il faut que l'État puisse faciliter tout. Si les parents ont accès à l'emploi, ils ont un salaire conséquent, ils peuvent encadrer les enfants. Au cas contraire, sans emploi, sans moyen d'encadrer les enfants, l'enfant est à la merci de la rue ou bien des groupes armés, tout comme l'enfant va se retrouver dans les carrières d'exploitation minière. Merci beaucoup, Olivier. On termine avec vous, fils. Vous êtes à Kananga, au Café Occidental. Bonjour.
Et bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à la radio Capi.
On vous écoute rapidement, fils, en 40 secondes, votre point de vue.
Oui, juste à la protection des enfants. Moi, je dirais que nous voyons plus qu'on ne puisse pas voir des enfants qui vivent dans les villes. Mais on veut aussi voir les enfants qui vivent dans les milieux rigaux. Par exemple, quand vous parlez de la scolarité des enfants, que là, c'est une aide gratuite. On verra dans les villages, les enseignants qui utilisent les enfants, des fois, cultiver donc des champs, ou bien au transport des trucs, s'il y a donc des constructions de leur maison, ou bien des particuliers, donc de leur milieu. Et à ce point-là, à quoi serait, où serait donc la gratuité donc de ces enfants?
Alors, merci beaucoup, fils. Vous avez évoqué cette question. Les enfants qui sont utilisés, quelqu'un au village a besoin de qu'on cultive pour lui. Il donne l'argent à l'école. L'école envoie des enfants cultivés. Ce soit les transports des briques, voilà. Alors, d'un côté, on pense que les enfants utilisent gratuitement, mais ils travaillent pour pouvoir compenser, en principe, l'argent qu'ils devaient payer à l'école. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit, beaucoup d'internautes. Jérémy Kiambou nous a écrit, Samuel Tembo de Kinshasa, Samuel Junior Mutambayi de Kananga. Vincent Ludungue qui nous a écrit du Sud Kivu, Anderson de Goma, Shérif Bin Mustapha de Kisangani. Vous avez été très nombreux à réagir parce que la question de l'enfant intéresse tout le monde. Mais on revient à notre invité parce que nous avons besoin de terminer cette émission. Nous avons vu Joseph Bodekaimbe qui est la situation de l'enfant pour beaucoup de personnes. D'un milieu à l'autre, il y a des grandes préoccupations, mais on a interpellé les pouvoirs publics, on a interpellé l'État. Avec ceci, qu'on arrive vraiment un jour dans un autre débat, faire vraiment un bilan où on peut se dire, voilà, nous avons réalisé des grands pas dans la situation de l'enfant. Sinon, on risque de revenir encore et de revenir, mais chacun reste dans son coin. Vous êtes les partenaires de l'État. Alors, si vous êtes demandé aujourd'hui dans vos rencontres, comment vous procédez pour arriver quand même à faire voir l'État cette situation comme elle est présentée par les auditeurs et les réponses que vous pouvez attendre?
Je crois que la réponse que j'ai pu donner à cette préoccupation, c'est de dire que notre peuple, nos autorités, les intellectuels congolais, de manière générale, n'ont pas quelque chose d'essentiel. L'essentiel dans la vie, c'est d'avoir l'idée de pouvoir contribuer au développement de son peuple. Quand on a fait les grandes études à l'université, il y a un élément qui doit nous motiver. Comment aider notre société à avancer? C'est ça pourquoi on n'a pas étudié pour voler l'argent et mettre dans les poches ou construire des maisons. On a étudié pour aider l'État, pour aider la population, pour aider la communauté à évoluer. C'est ça l'objectif des études. Mais malheureusement, dans notre pays, j'ai l'impression que les gens pensent que quand ils ont étudié, c'est pour régler le problème du ventre. Si quelqu'un doit régler le problème du ventre, il doit faire les commerces, il doit faire autre chose. Mais quand on étudie, c'est pour aider la communauté. Mais malheureusement, tous ces hommes qui en sont formés, qui sont des grands intellectuels, quand ils sont au service de la communauté, ces gens sont préoccupés par leur propre survie. C'est malheureux. Voilà pourquoi au regard de tout ça, notre société doit être refondée. On doit penser à la fondation du Congo. Parce que les hommes qui construisent les Congolais ne savent pas ce qu'ils font. Ils oublient l'essentiel de leur mission. Ils n'ont pas les éléments essentiels qui peuvent leur permettre de venir, de développer sur notre pays.
Mm-hmm.
Voilà pourquoi, David Adel, ce que nous pensons, nous disons qu'il faut qu'à un moment donné, conscientiser la société, les autorités. David Adel fait beaucoup d'efforts pour amener l'État à pouvoir agir. Nous disons que les enfants ne vont pas à l'école. Nous disons que la situation est dramatique. Nous disons en même temps que pour régler ces problèmes, il faut que l'État en fasse beaucoup de moyens à l'éducation. Aujourd'hui, de tous les pays qui sont émergents, quand vous allez voir le budget qui est affecté à l'éducation, vous réaliserez que, effectivement, ce pays est en train d'évoluer. Mais notre société n'affecte pas le budget à l'éducation et la communauté en péril.
Merci beaucoup, Joseph Bodekaïmbé, d'avoir accepté notre invitation et partager avec les auditeurs ses préoccupations autour de la situation de l'enfant congolais. Nous disons merci aux uns et aux autres que vous avez été très nombreux à participer à cette émission, que vous allez retrouver à 20h en rediffusion, mais aussi sur www.radiocapi.net pour le moment. Nous disons merci à Julie César qui a réalisé cette émission mise en onde par Paul Badianyama. Pierrot et la main, je vous la présente sous la supervision de Léonard Moulamba. Bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.